Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Chers fidèles, notre Sauveur reçoit dans l'Écriture bien des noms. Tantôt il est appelé roi, tantôt pontife, tantôt médecin, maître, source de vie, pain vivant ou encore lumière du monde. Tant de noms qui ne suffisent pas à décrire toutes les perfections de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce dimanche, il prend le nom de pasteur et il donne aux justes qui le suivent celui de brebis. Ce nom de pasteur, notre Seigneur ne le prend pas à la légère. Il se complaît d'ailleurs dans cette métaphore du pasteur au milieu de son troupeau, car il la développe dans presque tout le chapitre 10e de l'évangile de Saint Jean, duquel est tiré l'évangile de la messe d'aujourd'hui. Cette image du Dieu pasteur était bien connue des Juifs, puisque plusieurs prophètes l'avaient déjà employée avant notre Seigneur. Ainsi le prophète Ézéchiel dit ceci, « C'est l'Éternel qui prononce un oracle. Je susciterai sur elle un pasteur unique. David, mon serviteur lui-même, aura soin de les paître et il obtiendra lieu de pasteur. » Il est bien sûr clair qu'ici, il ne s'agit pas du roi David, qui est mort depuis bien longtemps avant Ézéchiel. Il s'agit du Messie, qui sera fils de David selon la chair. C'est une prophétie sur notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Messie. Autre prophète qui utilise cette image du pasteur au milieu de ses brebis, c'est le prophète Isaïe. Voici ce que nous lisons dans ce prophète. Il mènera son troupeau dans les pâturages, comme un pasteur qui paie ses brebis. Il assemblera entre ses bras les agneaux, et il les prendra sur son sein. Il conduira doucement les brebis pleines. Pourquoi donc notre Seigneur, d'abord dans l'Ancien Testament, par la bouche de ses prophètes, puis de lui-même, par sa propre bouche, dans le Nouveau Testament, affectionne-t-il particulièrement cette dénomination de pasteur? En se désignant comme le bon pasteur, il revendique ici hautement sa messianité. Il est ce pasteur messie que les prophéties ont annoncé. Les textes cités d'Ézéchiel et d'Isaïe ne peuvent en effet s'appliquer qu'au Messie. Notre Seigneur affirme ici qu'il est le Sauveur attendu depuis si longtemps. En se présentant sous cette dénomination, notre Seigneur nous révèle le fond de son âme, le but de l'incarnation, l'essence même de sa mission de Sauveur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. L'épître de ce dimanche est d'ailleurs lié de façon très étroite avec cet évangile du bon pasteur. En effet, dans le passage choisi par la Sainte Église, de la première épître de Saint Pierre, cette épître conclut ainsi, « Car vous étiez comme des brebis errantes, vous êtes maintenant retourné au pasteur et au gardien de vos âmes. » Et avant d'arriver à cette conclusion, Saint-Pierre donne toute une argumentation, tout un raisonnement sur les nécessités de revenir à ce pasteur et à ce gardien de nos âmes. Ces raisons, données par Saint-Pierre, sont tirées du chapitre 53 d'Isaïe sur le serviteur souffrant, une prophétie sur les souffrances de notre Seigneur dans sa passion, dans le prophète Isaïe. Les raisons données par Saint-Pierre sont les suivantes. Premièrement, ce pasteur a souffert. Et quelle souffrance, quand on prend la peine d'y réfléchir, de mettre devant ses yeux, dans son cœur, les souffrances de la passion. Il a souffert. Deuxième point, avancé par Saint-Pierre, il a souffert alors qu'il n'avait point péché. Car s'il fut conduit au supplice, ce ne fut point pour des fautes personnelles, puisqu'il n'a jamais péché. Il est l'innocence même. Nous, au contraire, nous avons péché. Nous sommes pécheurs. Et nous devons souffrir pour cela. Lui, il n'a rien fait de mal. Il a souffert sans péché, troisième point, il a souffert sans péché pour nous.
Christus passus pro nobis.
Il a porté nos fautes dans son corps jusque sur la croix, pour les y faire disparaître dans sa mort. Dieu le Père a en effet voulu nous libérer au prix du sang de son Fils unique. La victime du sacrifice rédempteur devait être le propre Fils de Dieu. Parce que la dignité infinie de sa personne devait communiquer à ses souffrances le prix de notre rédemption. Prix infini qui nous a rachetés de nos péchés. Et c'est là l'office essentiel du bon pasteur. Sauver ses brebis par sa propre vie, en se sacrifiant pour elles. Les Juifs, de fait, auraient sans doute préféré que leur Messie se présentât comme un roi guerrier, un destructeur des peuples, ou encore le vengeur d'Israël, ou tout autre titre dans lequel aurait transparu l'orgueil de ce peuple pharisien si imbu de lui-même. Notre Seigneur prend le contre-pied de leurs aspirations tout humaines. Il affirme d'ailleurs « Alia soves abeo, quenum sunt ex hoc ovili ». J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Par ces paroles, notre Seigneur indique que l'étendue de son amour s'étend au-delà du périmètre restreint charnel du peuple juif. C'est une prophétie qui annonce la conversion des gentils et leur agrégation à l'Israël fidèle. Il y aura un seul troupeau. Notre Seigneur veut le salut de tous, de tout homme. La mission spécifique du peuple juif est terminée. Notre Seigneur vient de l'annoncer. Cette image d'ailleurs du bon pasteur est tout à l'opposé de leur conception trop humaine du Messie. Si l'on reprend les prophéties, principalement celles d'Ézéchiel, la description qui nous est donnée du Messie est toute de tendresse, d'attention aimante envers chacune de ses brebis. Il est dit de lui en effet qu'il marche partout entouré et chargé de ses brebis, portant les unes sur ses épaules, les autres dans ses bras, celles-ci sur son sein, bien plus même dans ses entrailles. C'est ce qu'il affirme d'ailleurs par le prophète Isaïe. En s'entretenant avec ses brebis, voici ce qu'il dit « Voici que je porte dans mon sein, que je vous renferme dans mes entrailles. » Quelle tendresse de Dieu pour nous, de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos âmes. Toute son occupation est donc tournée vers le soin de ses brebis. Il n'a qu'un désir, leur faire du bien, jusqu'à donner sa vie pour elles. Et c'est ce qu'il a fait. Il peut dire à juste titre, « Je suis le bon pasteur ». La version grecque d'ailleurs, à l'adjectif et au subjonctif, et au substantif, pardon, ajoute un double article. « Hopoimen, hokalos ». Le pasteur, le bon. Double article. Il n'y en a pas d'autre. Il est l'unique, le seul. Si maintenant nous cherchons à voir la façon, outre son sacrifice pour nous, dont il s'occupe de nous, il y a de quoi être saisi par sa tendresse. Et aussi pour nous prendre quelques leçons pour être de bonnes brebis envers un si bon pasteur. Il est dit dans l'Évangile qu'il connaît ses brebis, chacune d'elles, nominatim, par son nom, non pas en gros. Il connaît chacune de ses brebis. Il s'intéresse à chacune de nos âmes en particulier. Saint Augustin exprime ainsi cette sollicitude que Dieu porte à chacun de nous. Seigneur, vous veillez sur moi avec autant de sollicitude que si vous ne vous occupiez que de moi seul. Toujours vous êtes présent, toujours prêt si vous me trouvez prêt. En quelque lieu que j'aille, vous ne me quittez pas, à moins que je ne vous quitte le premier. Vous ne nous quittez pas, à moins que je ne vous quitte le premier. Et c'est là la première résolution qu'il nous faut prendre, vivre en la présence de Dieu. Le Seigneur dit bien dans l'Évangile, « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Si nous voulons être de ses brebis, il nous faut connaître le bon Dieu, vivre en sa présence. Avoir les yeux sans cesse sur lui, les yeux du cœur surtout. C'est le grand secret de sainteté donné à Abraham. Marche en ma présence et sois parfait. Mais pour être parfait, il faut d'abord marcher en la présence de Dieu. Le saint exercice de la présence de Dieu. Et aussi connaissance de ce bon pasteur par l'étude, le catéchisme, les ouvrages de vie spirituelle qui nous parlent de Dieu, qui nous parlent de la vie spirituelle et surtout la vie des saints. Comment ces âmes qui ont pratiqué cette vie chrétienne jusqu'à l'héroïsme ont vécu cette présence de Dieu, ont connu leur Sauveur. Très important, la lecture de la vie des saints. Il nous connaît. Deuxième point, il marche devant nous. Il nous guide en marchant devant nous. Et où nous guide-t-il? Sur la voie que lui seul a empruntée, la voie de la croix, la voie étroite. Et il marche devant parce que nous ne pouvons pas rentrer dans cette voie si nous ne le suivons pas, s'il n'est pas notre guide. S'il ne nous soutient pas dans les difficultés de la vie, dans les souffrances nécessaires que nous devons endurer pour aller au ciel. Alors bien sûr, il y a une voie large et facile. Pas besoin de guide pour ça, on peut y aller tout seul. Le premier, c'est la voie de la perdition. Mais la voie du salut, il n'y en a qu'une. Il l'a pris le premier. Lui seul peut y marcher. Nous ne pouvons y aller qu'à sa suite et avec lui. Et il nous faut comprendre cela. Il marche devant, comme tout bon pasteur, comme un guide et un soutien. Et nous avons besoin d'être avec lui et besoin de lui faire confiance. Cette voie est difficile. Il nous faut regarder le guide. Il nous faut lui faire confiance. Ne jamais désespérer de son secours. Il est toujours là, même dans les moments les plus difficiles. Il nous connaît, il nous guide. Troisième point, il nous garde et il nous défend. C'est un pasteur, il nous protège. Dans la plupart des professions, les moments de travail sont entrecoupés de temps de repos, pendant lesquels les forces se refont. Le pâtre, lui, ne peut en aucun temps abandonner le soin et la garde de son troupeau. Même pendant la nuit, il doit veiller plus que jamais sur ses troupeaux pour les garder des attaques des loups ou des mercenaires. Or, notre Seigneur veille sur ses brebis et les garde du mal bien mieux que ne sauraient le faire tous les pâtres de cette terre. Surtout dans les temps que nous vivons, où la Rome conciliaire, néo-moderniste, a pris en main toutes les commandes dans l'appareil de l'Église, où même la tradition n'a plus la même vigueur qu'elle avait du temps de Monseigneur Lefebvre. Notre Seigneur veille plus que jamais sur chacun d'entre nous, sur les âmes surtout qui veulent le servir sans compromission. Faut-il s'enorgueillir d'être dans le dernier carré? Nullement. Si le bon pasteur ne nous défendait point, ne gardait point notre foi intacte des principes libéraux nous en serions au même point que les autres. Nous n'y verrions pas plus clair. Et il nous faut remercier le bon pasteur, nous humilier, lui demander de rester dans ce dernier carré. Ce n'est pas par nos forces que nous y sommes, c'est grâce à lui. Toutes ces considérations doivent nous aider à vraiment nous mettre sous la houlette d'un tel pasteur de notre Seigneur Jésus-Christ. À le regarder sans cesse des yeux du cœur en vivant en sa présence. Il nous connaît, nous devons le connaître. À nous laisser guider par lui dans la voie de la croix. Et enfin, à le prier pour qu'il nous protège sans cesse et que nous puissions arriver un jour aux alpages éternels, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.